Le berceau vide. Quand le marchand Lin, ruiné par la mauvaise foi de ses confrères de Kristiansund, fonda un comptoir de pelleterie en une bourgade presque inconnue de la Norvège septentrionale, il comptait un peu sur la naïveté des Lapons, ses nouveaux compatriotes, pour rétablir sa fortune. En effet, un an après avoir ajusté les solives de sapin qui composaient le chalet confortable, sinon luxueux, où reposaient à l'abri de la neige les coupons de soie voyantes et la précieuse petite personne de Madame Linde, le marchand possédait une vingtaine de rennes, sans compter les ballots de fourrure qui, pour n'être pas sur ses reins, lui permettaient de supporter plus aisément le climat du pays. Le marchand Linde était un honnête marchand, mais tout en faisant bon poids et bonne mesure, soit qu'il vendît du café, soit qu'il mesurât des étoffes, il n'en achetait pas moins une peau de renard, le tiers de ce qu'elle valait effectivement. À part ce petit travers, c'était un excellent homme, craignant Dieu, aimant sa femme, incapable de voler un bonnet de fourrure à ses voisins. Il est vrai que le brave homme souffrait beaucoup de voir la toute mignonne Madame Linde enfouie dans un grossier paquet de peaux de bête. Et l'ancien commerçant de Kristiansund était presque excusable de faire de fructueux échanges dans un aussi désagréable climat. Une trentaine de huttes coniques entourant l'église, pittoresque amas de poutrelles en saillie, hérissées comme une pelote d'aiguille, formaient le village de Karajok, bâti en un cirque étroit au pied d'une montagne dentelée de pins. À Karajok régnait un vieux maître d'école qui était à la fois marguillier, gendarme, juge et collecteur d'impôts. Il avait parlé autrefois le norvégien, mais il avait à peu près oublié, ses administrés se refusant à parler une langue autre que le lapon. Il représentait un gouvernement qui était là-bas, tout au sud, on ne savait pas où au juste. On lui faisait cadeau de jambon, de rennes, en guise de contribution, et il déclarait la loi satisfaite et de bonne peau de loup gardait ses vieilles jambes contre les intempéries. Quand il ne buvait pas du café sous sa tente, quand il n'allait pas cueillir du bois mort dans la forêt prochaine, il enseignait la Bible aux petits. C'était un excellent homme, oublié par le gouvernement dans les neiges de Karajok. Et comme il ne possédait ni rennes ni traîneaux, les voleurs, car il y a des voleurs même chez les Lapons, avaient beau jeu pour éviter les foudres de sa justice. L'église de Karajorsk n'avait pas de pasteur. Une fois par an, un homme de Dieu venait de Koudkaïno, ville située à 200 km, mettre en branle la clochette accrochée au sommet de ce singulier édifice, construit comme un nid de corbeau, sans souci d'aucune donnée architecturale. Aussi voyait-on d'impatientes fiancées venus des champs de neige sur leur traîneau, attelés d'un renne blanc, frapper en vain aux planches mal jointes de la porte et regagner leur hutte désespérée. Les Lapons, qui mouraient pendant la longue absence du missionnaire, attendaient dans des cavernes leur sépulture en terre sainte. Les nouveau-nés attendaient patiemment aussi leur immersion dans les fonds baptismaux. Mais les amoureux n'étaient pas aussi paisible humeur. 15 mois après son arrivée à Karajok, la toute gracieuse Madame Lin donna le jour à une petite fille qui faillit coûter la vie au brave et honnête commerçant. Dans sa joie d'être père, le marchand de fourrure commit tant de folies que ses voisins le vénérèrent pendant 15 jours comme un être merveilleux, touché par l'esprit des anciens dieux Lapons. Il versait à boire à tout venant, offrait des miroirs de poche à toutes les jeunes laideurs qui, voulant sourire, allaient faire des grimaces à la jeune Madame Lynn. Elle était toute mignonne, mais si frêle, la petite Norvégienne, dans ses langes de peau douce, dans l'ouate des fourrures blanches où ses deux yeux fleurissaient comme de myosotis pâles, que Madame Lynn, fort pieuse, résolut de la porter vite sur les fonds de Kujalkino. Le négociant prétexta en vain qu'une course de 200 kilomètres à Noël, à travers des plaines gelées, glacées, n'était pas faite pour donner de la robustesse et de la santé au corps menu, délicat de cette petite fille des villes. Sa femme lui répondit qu'il ne comprenait rien aux raisons qui la poussaient à entreprendre ce voyage, et l'assura, d'ailleurs, que l'enfant serait soigneusement protégé du froid. Et elle ajouta, « Si nous attendons la venue du ministre, nous avons tout à craindre dans ce vilain pays où seuls les petits oursons et les petits lapons peuvent espérer vivre jusqu'au printemps prochain. Consacré à Dieu, Dieu nous gardera notre fille. » Très volontaire et très obéie, Madame Lind ordonna aussitôt à une jeune laponne, sa domestique, de préparer le berceau, le comse, où devait reposer l'enfant. Oh, le comse est à peu près le seul meuble qui orne les intérieurs lapons. C'est un tronc de bois évidé, portant à une de ses extrémités une capote destinée à protéger la tête de l'enfant. Des lanières de cuir tendues de la capote au pied du bébé supportent une couverture qui garde l'enfantelet du froid et de la neige. Une courroie fixée aux deux extrémités du berceau permet à la mère de porter son fardeau sur la hanche à la façon des joueurs de viel chargés de leur instrument. Le petit sabot lapon est le plus pratique, sinon le plus élégant, de tous les berceaux inventés par les mères humaines. On peut le suspendre aux branches des pins ou le déposer dans un traîneau attelé de bêtes indomptées, sans craindre pour l'oiseau qui dort dans son nid de bois. Non contente de veiller à la sécurité de son enfant, la mère lapone cherche encore à l'amuser pendant les longues courses sur la neige. Elle l'attache à la capote des anneaux de bois, des osselets qui bruissent et tentent les mains du tout petit, beaucoup moins criard que nos bébés occidentaux. Autrefois, elle suspendait au chevet de son fils des arcs et des flèches, armes minuscules qui devaient lui donner l'amour de la chasse et une âme courageuse. Autrefois aussi, elle parait le berceau de sa fille de plumes de perdrix blanches, destinées à rendre la petite laponne propre et active. Aujourd'hui, les laponnes ne croient plus à l'influence des plumes blanches sur le caractère des nourrissons, mais elles savent capitonner le nid de leurs petits tout aussi bien que les mères oiselles. Madame Lynn surveillait Magdja, la servante laponne, qui étendait une couche de mousse au fond du comse. « La mousse est-elle bien sèche, Magia ?»« Oh, sèche, on n'en trouverait pas de semblable dans tout le Jutefeld. Et les peaux de rennes sont bien préparées ?»« Maîtresse, ce sont les peaux de petits rennes venus avant terme. » Cependant, le marchand Lind avait fait atteler 4 traîneaux qui devaient emporter la caravane jusqu'à Kutokaino. Les rennes, au pelage gris cendré, étaient des bêtes superbes, portant des bois vigoureux. Les sangles de cuir, ornées de clochettes d'argent et de pompons rouges, pendaient sur leurs flancs évidés. Ils grattaient la neige du bout du sabot, pendant que sursautaient les rosaces de la laine rouge. L'un d'eux, tout blanc, les naseaux carminés, était attelé au traîneau de Madame Lynn, traîneau luxueux aux couvertures d'hermine brodées d'un cordonnet de soie rouge. En Laponie, une femme élégante ou riche ne consentirait pas à se montrer dans un traîneau remorqué par un renne gris ou un renne plébéien. Les quatre traîneaux étaient reliés les uns aux autres par une solide lanière. L'équipage de tête devait être conduit par Lance, le plus habile dresseur de rennes de Carajoc, que le marchand avait pris à son service. Le second, le troisième traîneau était destiné à Lynn et à sa femme. Magia, portant le berceau sur ses genoux, prendrait place dans le dernier véhicule, derrière lequel était attaché un vieux renne dressé à ralentir l'allure de ses jeunes compagnons sur les pentes dangereuses. Les rennes, impatients, s'éclaboussaient le poitrail de neige en attente du coup de sifflet qui les lancerait sur la plaine unie. Le domestique déposa dans son traîneau un quartier de viande gelée et un vase destiné à la confection de la coupe de sang, puis s'assura que les bêtes étaient bien attelées. « Attention !» cria-t-il, les guides en main. Il sauta dans son véhicule et les rennes firent neige les quatre pieds. Il faisait un temps froid et sec quand la famille Lynn partit pour Kutokaino. Une neige fine, tombée le matin même, permettait une facile glissée sur la blanche surface durcie. Autour des voyageurs, le champ blanc s'étendait immense, coloré de rose pâle par une aurore boréale qui peignait des décors de rêve au-dessus de l'horizon pourpre. La neige, coupée par les éperons des traîneaux, bruissait. Excitées par la musique de leurs clochettes, les rennes, d'abord bondissants, obéissaient au claquement de langue du lapon et allongeaient leurs jambes grêles en une allure rythmée comme mécanique. Quand les bêtes furent lassées par quelques heures de course rapide, le domestique détacha la lanière qui reliait les traîneaux et les voyageurs conduisirent leurs rennes à leur guise. Madame Lynn connaissait son équipage avec une grâce aisée. En l'immobilité de ses fourrures, elle maintenait, par un haussement d'épaule ou une imperceptible ondulation du buste, l'équilibre de son véhicule glissant sur un étroit patin de bois. Lars se livrait à mille clowneries. Il conduisait la tête en bas, les jambes en l'air, tout en harcelant son renne de tous les jurons connus dans Laponie. Sachant l'importance de sa mission, Magia, le comsé sur ses genoux, maintenait sa bête à une vitesse régulière. D'ailleurs, les grands yeux inquiets que Madame Lynn tournait à chaque instant vers le petit sabot l'invitaient à la prudence. Le marchand, lui, dirigeait son équipage comme il pouvait, c'est-à-dire plus mal que bien. Nos voyageurs cheminaient depuis 6 heures, sans trop de fatigue, quand Lars donna le signal de l'arrêt. « Maître, dit-il, nous n'avons fait que 5 lieues, et il nous faut 2 heures de marche rapide si nous voulons attendre ce soir la hutte que les voyageurs ont construite à mi-chemin de Kutokaino. Laissons reposer nos rennes. » Dételées, les bêtes se mirent à fouir la neige, cherchant leur nourriture, une mousse épaisse et courte, pendant que Lars faisait fondre la glace pour mettre le pot au feu. « Magia, donne-moi mon enfant !» demanda Madame Lynn. La mère, après avoir enlevé la couverture qui protégeait le visage de la petite fille, allait la sortir de son nid de fourrure, quand la servante, la Laponne, se précipita vers elle. « Oh, ne faites pas cela, maîtresse, ne faites pas cela, prends garde !»« Qu'avez-vous, Magia ? Il ne faut pas exposer l'enfant au froid. La pauvre petite Gélinotte en mourrait, sûr. Mais je voudrais lui donner le sein. » Maîtresse en Laponie, les mères s'agenouillent dans la neige et se penchent sur le berceau pour allaiter leur enfant. Souriante et heureuse, Madame Lind se coucha à demi près du petit sabot. Le marchand, pour cacher son émotion, s'écria en riant « On dirait une ours blanche qui fait téter son ourson !» Après le repas, la caravane reprit sa course vers Cutolcameo. Le sol devint bientôt trop inégal pour permettre au bouffon Lars d'amuser ses maîtres par ses prouesses d'équilibriste. Plus loin, le chemin longea un torrent et le domestique dut rattacher de nouveau tous les véhicules à la lanière de sûreté, recommandant la prudence et observant que le moindre heurt pouvait précipiter un voyageur dans l'abîme. « Magia, demanda Madame Lind, donne-moi ma fille. « Ne crains rien, maîtresse, ne crains rien, je veille sur le petit trésor. » Cependant, Lars secouait les guides et lançait son renne à toute allure. « Lars, ne cours pas si vite !» cria le commerçant, surpris de ce redoublement de vitesse. Lars se retournant et dit en lapon, langue que ne comprenait guère Madame Lind, « Fais beaucoup de bruit, maître, beaucoup de bruit pour exciter nos rennes !» Et il ajouta, « Regarde-là, sur la neige, tu vois leurs traces, n'est-ce pas? Les loups viennent de passer, les loups viennent de passer. Faut pas effrayer maîtresse. La cabane est proche et nous l'atteindrons avant qu'ils nous aient flairé, mais vite, vite, vite !» Et comme il achevait ses recommandations, le renne qu'il conduisait s'arrêta brusquement, tourna la tête vers le ravin qui servait de lit au torrent et fit un brusque écart qui faillit renverser le traîneau. Aussitôt apparut une bande de loups se ruant vers la caravane, la langue pendante, semblable à un lambeau de velours rouge, accroché à leur croc formidable, les yeux ardents, les oreilles aiguës, comme des fers de lance. Les rennes poussèrent un mugissement d'effroi, soufflèrent bruyamment, puis s'élancèrent en une détente de leurs grandes jambes, insensibles aux recommandations amicales de Lars, rebelles à la pression des guides. Fous de terreur, ils gravirent une pente semée de ronds troncs d'arbres. Les traîneaux, derrière eux, sursautaient comme des coqs de noix embarqués sur un torrent. Accrochés aux parois de leur véhicule, les voyageurs oubliaient de les diriger. Bientôt la lanière de sûreté se rompit. La course devint plus folle, les heurts plus violents, pendant que sur la neige les loups accouraient, soufflant des jets de buée par leurs narines qui semblaient déjà ensanglantées. Dominant les aboiements des fauves, le bruissement de la neige, les mugissements des rennes, une voix cria « Magia, Magia, ma fille !» Les guides enroulés autour de sa main droite, la servante Laponne pressait de l'autre main le petit sabot sur sa poitrine. Brusquement, son traîneau heurta un tronc de pin à moitié dissimulé sous la nappe blanche, et le choc la projeta sur la neige inanimée. Le berceau roula sur la pente vers le torrent, pendant que Magia, entraînée par les lanières enroulées autour de son poignet, glissait sur la neige à côté de son traîneau. Reprenant ses sens, elle put voir la bande de loups se lancer à la poursuite de ses deux rennes, qui, attachés l'un à l'autre, à l'arrière du véhicule, cherchaient à fuir dans des directions différentes, offrant une proie facile aux fauves affamés. Emportés par leurs équipages plus vifs que celui de Magia, les époulines et leurs domestiques ne s'aperçurent pas de la chute de la servante. Aussi furent-ils tout étonnés de ne pas voir le traîneau de la pomme qui furent arrêtés. Aussi furent-ils tout étonnés de ne pas voir le traîneau de la Laponne quand ils purent arrêter leur reine, encore tremblant de peur. « Magia ! Magia !» appela la mère inquiète, tandis que Lars, les mains arrondies autour de la bouche, modulait tous les cris d'appel en usage chez les pasteurs des reines. La nuit succédait rapidement au jour gris, terne des hivers polaires. Après une longue attente qui ne fit qu'augmenter les affres de Madame Lind, Lars proposa « Oh, nous ne sommes qu'à un quart d'heure de la hutte. Allons jusque-là. Magia est une vraie Laponne et nous allons la voir revenir toute fière d'avoir dépisté ce fils du diable, ces démons habillés en loup. Mais je t'accompagnerai à sa recherche si elle ne nous rejoint pas, » dit résolument Madame Lind. « Oh, n'y songe pas, maîtresse, c'est impossible. Je ne suis pas certain, pour ma part, de pouvoir conduire ma bête dans la nuit, tant elle est effrayée. Et regarde ton renne blanc, il semble comme une feuille de bouleau sous le souffle du vent. Mais je veux mon enfant, je veux mon enfant. Mais Magia nous attend peut-être dans la butte. Prends patience, maîtresse, prends patience. » Ils repartirent. Les rennes s'étaient un peu calmées. Dès qu'ils aperçurent la cabane faite de branches entrelacées où gîtent les voyageurs qui se rendent à Costucaino, Lind et son domestique crièrent « Magia ! Magia !» Ce fut en vain. Alors Madame Lind se laissa choir en un coin de la hutte, éplorée et tremblant de fièvre, pendant que Lars dirigea son équipage vers le plateau où les loups avaient assailli la petite caravane. Arrivé près du torrent, il haïla la Laponne. Une voix monta jusqu'à lui du fond du ravin. « Ici, Lars, ici, je cherche petite maîtresse. » Le domestique se laissa choir sur les skis jusqu'auprès de Maya, qui errait sur les rives encombrées de glaçons à la recherche du berceau. Elle lui conta sa chute, sanglota. « J'étais comme morte, j'ai lâché le comme-c'est sans savoir. Je te dis que j'étais comme morte, il aura roulé dans la rivière. Pauvre petite maîtresse, pauvre petite gélinotte blanche, elle connaissait déjà Magia, petite maîtresse. Les loups, non Lars, les loups ont poursuivi les rennes, j'en suis certaine. Ne dis pas que les loups l'ont mangé. » L'obscurité était telle que les yeux brouillés de larmes, il se saisissait les mains en tâtonnant sur le sol, en quête du berceau. Après 2 heures de recherche, « Rentrons, » dit Lars. « Je n'ose pas. Viens, demain nous serons plus heureux. » Quand la sonnaille des clochettes annonça aux époulines le retour de leur domestique, la pauvre mère courut à leur rencontre. « Magia, mon enfant !» La Laponne, le geste désespéré, ne sut que répondre. Alors Lars raconta l'accident, s'efforçant de rassurer ses maîtres. « Mais puisque tu dis que ma fille ne peut pas être morte, descendons tous dans le ravin et nous saurons bien l'y retrouver, » supplia Madame Lind. « Impossible, maîtresse, impossible de distinguer un renne blanc d'un renne gris. Demain. Mais demain, ma fille sera morte. Les loups, oh, partons. » On la transporta dans la hutte. On l'étendit sur un lit de fourrure où elle sanglota toute la nuit, caressée de mots berceurs et enfantins par son mari penché sur sa couche. Magia, assise en un coin, de crainte d'attirer l'attention sur elle, pleurait derrière la peau de frêne dont elle se voilait la face. Le lendemain, à l'aube, nos voyageurs, arrivés près du tronc d'arbre qu'avait heurté le traîneau de Magia, aperçurent sur la neige la trace laissée par le berceau roulant vers l'abîme.
« Oh, le comme c'est ! Le comme c'est !»
cria soudain joyeuse la pauvre mère. Et elle se précipita vers le petit sabot, aperçu par elle seule, enclavé entre deux glaçons à 10 mètres de la rive. Puis elle s'affaissa sur le sol. Le berceau était vide. Les bandelettes lacérées, les langes de peau éparpillées étaient maculées de taches rouges. Et autour du petit sabot, la neige durcie ressemblait à une mousse sanglante. Emportant comme une relique le berceau dévasté, les voyageurs regagnèrent Karajosk. Et pendant le trajet, Madame Lynn ne proféra pas une plainte. Mais ses grands yeux tristes de femme du Nord étaient endeuillés par le voile de larmes qui pour toujours assombrit le regard des mères ayant perdu leur petit. La douleur de sa maîtresse, la vue du sang répandu, troublèrent si fort le domestique Lars, qui n'aperçut pas, près du berceau, les zébrures imprimées sur la neige par la course d'un homme glissant sur ses skis.